RMC.
GG, 7 et match.
La ville de Marseille est-elle devenue une zone de non-droit ? Oui, dit Kevin Bossuet. Non, pour l'ancien policier du raid Bruno Pomard et la Marseillaise des GG, Kaouter Ben Mohamed. Kaouter, puisque c'est toi qui es le local. Hein.
Exactement, et je suis très fier de l'être d'ailleurs.
Eh bien, c'est toi qui commence ce match. Allez, c'est parti.
Marseille n'est pas, n'a jamais été et ne sera jamais une zone de non-droit. Marseille est l'une des plus belles villes de France. Elle pourrait être la capitale de la Méditerranée si elle n'avait pas, malheureusement pour elle depuis des décennies, les élus, enfin, certaines de ces élus qui font partie de la classe la plus médiocre et non courageuse et non compétente de toute la galaxie. Ça c'est dit. C'est-à-dire que.
Ça, c'est fait.
Parce que le problème de la délinquance, c'est le problème de ce que vous appelez des règlements de compte, à savoir d'assassinat. Certains de nos enfants, je dis nos enfants parce que voilà, c'est notre ville, sont devenus des assassins, y compris pour certaines familles, je le regrette pour elles, des propres cousins qui s'entretuent pour des narcotrafiquants. Parce que certains territoires de la République que vous, vous définissez comme des zones de non-droit sont abandonnés depuis des décennies et il n'y a absolument rien. Il y a du logement qui est complètement indécent.
Donc, c'est une zone de non-droit.
Et je rappelle que le logement et le logement social en particulier n'est pas de la responsabilité des habitants, mais l'entretien du bailleur, donc du propriétaire, qu'il soit. Et il n'y a plus rien, en fait. Il n'y a plus d'éducation. Et toi, tu le sais. C'est pour ça que tu vas dans ces.
Les 60
c'est
pour ça, secondes
pour si
terminer.
un ancien flic, et que moi, on est d'accord, c'est que vraiment, nous qui connaissons le terrain, qui connaissons les jeunes, qui connaissons ces quartiers, c'est pas la faute des habitants.
Kevin Bossuet.
Oui, bon, bah déjà, je n'ai jamais mis les pieds à Marseille. Je n'ai pas envie d'y mettre les pieds, puisque j'ai des amis qui sont allés plein de fois. Et très franchement, il paraît que c'est horrible, c'est sale, c'est affreux, il y a une insécurité partout. Enfin, ce sont les. On dit, donc de là à dire que c'est la ville la plus belle de l'univers, ou je ne sais pas trop quoi. Bon, bref, je ne m'avancerai pas sur le terrain. Alors après, sur la question des zones de non-droit. Enfin, c'est la question est la suivante. Qu'est-ce que c'est qu'une zone de non-droit? Alors, peut-être que c'est pas complètement, certains quartiers ne sont pas complètement des zones de non-droit, parce que malgré ce qu'on raconte, la police peut quand même entrer. Mais la question est-ce que la police peut faire correctement son travail? La réponse est évidemment non. On voit bien qu'il y a une montée de la violence avec un phénomène des règlements de compte qui est endémique, avec ce phénomène de jambisation, par exemple, où vous avez des trafiquants de drogue qui tirent dans les jambes des autres trafiquants pour faire des blessés à armes lourdes, avec des habitants qui ne sont pas forcément, qui ne se sentent pas chez eux. Parce que quand vous rentrez dans une cité et que vous avez des dealers qui vous attendent et qui vous demandent qui vous allez voir, pourquoi vous êtes là, est-ce que vous n'êtes pas de la police, est-ce qu'on est encore dans une zone de droit? La vérité, c'est que sur certains territoires, on est dans une zone au sein desquelles, finalement, ce sont les trafiquants, ce sont les dealers qui organisent l'ensemble de l'économie, qui organisent l'ensemble de la vie sociale, et les policiers ont beaucoup, beaucoup de mal. D'ailleurs, le travail premier du policier, c'est quoi? C'est d'essayer d'aller voir les habitants pour voir s'il est possible d'aller faire le guet dans leur appartement, pour voir s'il est possible qu'on leur donne des informations. On en est là aujourd'hui. Alors, on va partir de Marseille, mais quand je vois, par exemple, à Saint-Ouen, dans la cité Charles Schmitt, où vous avez les habitants qui négocie directement avec les dealers pour être tranquille après 22 heures, on peut quand même très largement se poser des questions. Quand vous prenez en région parisienne à Sevran, où en 2007, vous avez une balle. Vous avez une balle qui traverse. Vous avez une balle qui traverse une cour de récréation. Est-ce qu'on est encore dans une zone de droit? La vérité, c'est que non. Le problème de la drogue, c'est que il y a 20 000 personnes qui vivent directement de la drogue. Il y a 200 000 personnes en France qui en vivent directement. C'est 3 ou 4 milliards d'économie par an, enfin c'est ce que gagnent les gens. Un point de deal, c'est environ 10 000 euros par mois. Donc forcément, c'est la loi du marché sur la loi de la République. Et en effet, on peut se poser la question. On est dans des zones peut-être pas de non-droit, mais dans des zones de semi-droit.
Les zones que vous qualifiez de non-droit, excusez-moi, c'est 100 000 euros par mois de chiffre d'affaires minimum. C'est pas 10 000.
Donc tu vois, par jour.
Zone de non-droit, mon cher Kevin, il faut faire la différence. C'est la zone de non-droit où personne ne peut plus aller.
Non, mais parce que ce concept
zone de notre droit, peut-être.
Oui, dans certaines secteurs, tu sais très bien qu'il y a des cités qui sont contrôlées par les dealers.
Mais tout le monde en convient. Il faut
montrer pas de blanche pour entrer.
À Marseille, comme ailleurs, le jour où la police décide d'y aller, elle y va. Je veux dire, coûte que coûte.
Avec quel résultat?
Évidemment, on n'y va pas, ce que tu disais, en allant faire du lilotage. Moi, le premier, j'irai pas me promener à deux dans une cité, même si j'y vais sous d'autres formes. Mais si la police décide d'y aller, elle y va. Elle a fait des perquisitions gigantesques dans tout un tas de quartiers. Elle est capable d'être présente. Le seul souci, c'est dans la durée. Que fait-on?
Mais c'est un combat sans fin, surtout, on a l'impression. Parce que, pardon, mais moi, Gérald Darmanin a fait de la lutte contre les points de deal.
Il en a fait tomber un paquet.
Non. D'accord, mais combien de points de deal se reconstituent à côté? J'ai l'impression que c'est un combat sans fin. Ces règlements de compte à Marseille, on en parle depuis des années, il y en a toujours plus.
Avec règlements de compte, c'est des assassinats.
Des assassinats ou des fusillades. Alors peut-être que cyniquement, ça arrange tout le monde. Peut-être qu'on se dit, comme c'est les voyous entre eux qui s'entretuent, on ne va pas non plus quand même trop se mobiliser.
Trop moyens, voilà. Non,
c'est surtout les dégâts collatéraux qui gênent le plus. Mais parlons, attendez, le trafic de stupéfiants,
etc. C'est pas que ça gêne, c'est inacceptable.
Existe depuis la French Connection, depuis Gaston Defer. C'est pas d'aujourd'hui, Marseille.
Non, mais c'est
d'autres
pas ça.
Grandes villes.
Non, c'est je veux dire, pas cesser de dire ça.
Mais la police peut quand même faire sa mission, c'est ce que je veux dire.
Non, aujourd'hui,
le monsieur qui était là
l'a dit avant.
C'est l'efficacité.
Moi, j'en atteste à Marseille. Moi, je suis née dans des bidonvilles, j'habite dans la moitié des cités, j'habite toujours dans un centre-ville populaire. Je suis désolée. La police n'a pas les moyens de faire son travail correctement.
Elle le fait quand même.
Alors, tu entends bien ma phrase entière? Je dis correctement.
C'est pas la police qui est en cause.
C'est pas la police qui est en cause, en fait. C'est que le politique, ceux qui nous gouvernent, y compris M. Darmanin, malgré ses différentes déclarations, ne donnent pas les moyens. Il n'y a pas que M. Darmanin, je vais terminer ma phrase. Ne donnent pas les moyens aux autorités compétentes de faire leur travail de prévention et de répression. Et quand il y a prévention, il n'y a pas que la prévention policière, il y a un problème d'éducation. Les éducateurs qui bossent dans ces quartiers-là, et je salue Karim, mon collègue, qui lui est encore resté sur le terrain de la DAP, qui fait un travail formidable au quotidien, ils n'ont plus les moyens aujourd'hui de travailler avec ce type de jeunes. Ils n'ont aucun moyen humain, aucun moyen financier.
Ils sont sous emprise de réseau, c'est une chose. Mais
oui,
parlons de l'institution,
on en parle toi et moi souvent par rapport à des actions sur Marseille, et tu le fais toi. Moi, je regrette et je regretterai toujours la police de proximité.
Enfin, la police de proximité dans les cités, là, pour.
C'est la proximité qui permettait de démanteler les points de deal. Arrêtez de raconter
ça. C'est pas son rôle. Son rôle, c'est de faire
un problème.
Non,
la police de proximité. Avec les gens qui font la loi. Donc, la police de proximité, on s'en claque.
Non, parce que quand il y avait la police de proximité, et je salue René Giancarli qui était à la tête de cette police de proximité. Oui, parce que j'ai travaillé avec des personnes formidables, y compris avec des flics formidables. Non, arrêtez vos conneries, là. On a fait un travail exceptionnel dans les cités. Ils rentraient dans les cités, ils n'étaient pas caillassés, ils parlaient avec les jeunes. Il y a beaucoup de jeunes qui sont devenus flics, excuse-moi, et ils empêchaient certains jeunes d'aller vers les narcotrafiquants, etc. Peut-être, c'est certain. Vous parlez de choses que vous ne connaissez pas, c'est merveilleux quand même.
Hervé est avec nous au 32-16. Bonjour Hervé.
Bonjour tout le monde.
C'est dur pour moi.
Vous vouliez intervenir parce que vous avez fait de la prison, c'est ce que vous nous avez dit au standard.
Voilà, ouais, j'ai fait 7 ans de détention. Là, je suis sorti en 2019.
Au Beaumet?
Non, j'ai pas fait les Beaumet. J'ai fait l'Uine et après je suis parti à Tarascon, centre d'extension.
D'accord.
Voilà. Bon, après, moi, je voulais revenir un peu sur ce qui a été dit. Je pense pas que Marseille soit une zone de l'endroit. C'est pas un souci. Ce qui se passe actuellement, c'est un problème générationnel. Moi, j'ai côtoyé un peu ces jeunes en prison. Je vous donne deux exemples. Mais ils s'en foutent totalement. De rentrer en prison, de sortir, de prendre 10 ans. Ils s'en
foutent. La prison ne fait pas peur.
Non.
Alors, je vous explique. Ils continuent leur trafic en prison, d'ailleurs.
Deux exemples.
Allez-y.
Deux exemples. Une fois, je suis à la douche le matin. Il y a deux jeunes qui prennent la douche avec moi. Donc, c'est la douche 4-5. Bon, enfin, bref, ça discute. Et ils étaient actuellement en passage devant la cour d'assises pour un double meurtre. Ou un règlement de compte. Ça parlait entre eux. Les discussions, c'était moi, si je prends 10, 12 ans, je suis content. Je m'en sors bien. Voilà, les jeunes.
Ah oui.
Ils rentrent en prison, ils prennent des. C'est ce qui se passe actuellement, les moyennes, c'est entre 10 et 15 ans.
Et pourtant, c'est beaucoup, 10 ou 15 ans quand même.
Oui, non, mais attendez, laissez-moi parler. Ces jeunes-là, ils ont une vingtaine d'années, ils sont jeunes. Quand vous rentrez, par exemple, prenez 10 ans, vous avez 21 mois automatiquement de remise de peine, quasiment 2 ans, vous descendez à 8 ans. C'est automatique.
Ouais, c'est ça.
8 ans, vous retenez bien un peu de RPS, ils sont jeunes, à mi-peine, on leur donne une conditionnelle parce qu'ils sont jeunes, il faut les réinsérer.
Ouais.
Ils font 4-5 ans, ils ressortent. Ils ont tué du monde. Voilà ce qui se passe actuellement.
Okay. Ouais, donc,
autre chose, j'étais avec un jeune de 26 ans à la Castellane, avec moi en cellule. Je parlais un peu avec lui, je lui dis ça va et tout, putain, arrête tes conneries et tout. Parce que moi, je parlais avec lui, je l'entendais au téléphone, hein, avec ses collègues et tout, bon, enfin, bref. Et j'ai dit, tu n'as pas marre, cette vie et tout. Et il me répond, texto, et pour vous dire la mentalité qu'ils ont, moi, si j'arrive jusqu'à 30-32 ans, que je meurs, je vis jusqu'à 30-32 ans, je serai content.
C'est ce que disait tout à l'heure Bruno Pomard. En fait, ils se disent, on vit 10 ans, mais on vit bien avec l'argent, la drogue, etc. à fond. C'est intéressant ce qu'il dit, c'est-à-dire que c'est compliqué après de trouver la bonne réponse.
Non, Hervé, ce que vous disiez, ce que le changement qu'il va y avoir, c'est la réduction de peine maintenant automatique, c'est fini.
Dans la nouvelle législation. Ça, il peut pas le mettre, ça va faire un bordel complet.
Il faut mettre une carotte.
Ça a été dit, hein.
Il y a eux, ça a été dit, mais ça n'a pas été fait. Et ce ne sera pas applicable. Parce qu'il y a eux et les autres délinquants. Et les autres délinquants, ils ne méritent pas de ne pas avoir de réduction de peine. Vous voyez ce que je veux dire ? Voilà. Donc, ils ne peuvent pas. Alors, à moins qu'ils fassent comme à l'époque, quand il y avait les remises de peine du 14 juillet du président, pour certains cas, oui, pour certains cas, non. Voilà.
Mais en fait, Hervé, les remises de peine devraient être liées à un comportement. Elles ne devraient pas être automatiques.
Il y en a pour le comportement. Il y en a pour le comportement.
Mais c'est celle-là qu'il faut garder. C'est celle-là qu'il faut garder. Parce qu'il faut quand même avoir. Il faut quand même avoir un espoir en prison et ça permet aussi de, d'acheter un peu la paix sociale.
Non, mais les remises de peine automatiques selon les délits.
Et Hervé, vous avez fait 7 ans, vous ?
Ouais, moi, sur ma vie, j'ai fait 10 ans.
10 ans, et vous avez arrêté ? Enfin, vous avez arrêté, vous êtes...
Je suis rangé.
Quel âge vous avez ?
53 ans.
Vous aviez fait quoi ?
Moi, c'est pour escroquerie.
D'accord. Et vous êtes rangé, c'est-à-dire que la prison vous a quand même fait réfléchir ?
Non, mais à un moment donné, il faut arrêter. Moi, j'ai autre chose à faire. J'ai un enfant. J'ai fait l'argent facile. Mais je vous explique pour revenir à ce que disait Kaota tout à l'heure.
Mais vous dites qu'il y a une nouvelle génération qui, un, la prison, ça fait pas peur. Deux, ils se disent, de toute façon, on va vivre 10 ans. Donc, de toute manière,
Ils s'en foutent. Ouais. Les jeunes, ils se vantent. Je vous explique. Ils vont chercher quelqu'un, comme on dit ici. Ils se vantent après, ils sont en boîte. Ils se vantent, ouais, nous, si nous avons fait ça. Ils s'en foutent totalement. Se faire serrer, ils s'en foutent. Allez, et pour revenir à ce que disait Kaota tout à l'heure. Il y a de plus en plus d'affaires résolues sur Marseille. Il n'y en a jamais eu autant d'affaires de meurtre, de règlement de compte résolus. Il n'y en a jamais eu autant.
Donc il y a quand même un travail des policiers qui est fait.
Oui, mais il y a un travail, ils sont débordés. Ce qui se passe actuellement là, ce qui s'est passé cette année, c'était prévisible. En vérité, ce qui se passe cette année, ce sont les gens qui sortent de prison, parce qu'il y a beaucoup de sorties de prison actuellement, et ils veulent reconquérir les territoires qui ont été pris par des jeunes. Voilà ce qui se passe. Donc ça va durer un an ou deux ans d'avoir beaucoup de meurtres.
Parce que là, 33 morts, c'est un record sur l'année.
Oui, mais c'est l'année dernière, pas cette année.
Chacun retrouve sa place et puis ça se tasse.
Non, ils veulent essayer. Les jeunes, ils ont les langues longues, ils veulent pas se laisser faire. Et les autres, ils sortent. Et c'est comme ça. Et c'est même de la prison, ils continuent leur trafic. Et puis pour revenir à ce que disait Kaouta tout à l'heure, je l'aime bien Kaouta, mais à un moment donné, il faut remettre un peu les choses à leur place. Quand tu parlais du collectif des parents, des mères de famille, de ces jeunes qui se font tuer, je te comprends, ça, je suis d'accord avec toi. Mais reconnais-le, la majorité. Dans ces quartiers-là, vivent du trafic de drogue, le savent parfaitement.
Et les parents aussi.
Et ne disent rien. Moi, j'ai entendu.
C'est la loi du silence.
Les parents qui ramenaient du site aux gamins en prison pour faire le trafic en prison.
Ne dites pas la majorité.
Ça existe.
Moi, j'ai vu des mamans.
Arrête de cacher la vérité.
Non, on n'a pas dit ça.
C'est le témoignage Hervé.
Le monsieur doit être plus précis. La totalité de la cité ne vit pas.
Il n'a jamais dit ça. Il a dit qu'il a vu une maman qui ramenait du shit à son enfant en prison. Il l'a vu.
Il a dit tout le quartier vide.
Mais c'est marrant parce que quand vous êtes face à une réalité, vous dites non, c'est pas comme ça.
On n'a pas dit le contraire. On a vu la mère de notre Fada de Cattenay se défendre aussi. Il y a des mamans qui défendent envers et contre tous leurs enfants, même quand ils font des conneries. Il n'y a pas de problème. Sauf qu'on te dit, lui en tant que policier, moi en tant qu'habitante de ces quartiers et éducatrice spécialisée, que ce n'est pas la majorité des parents.
Le mot de la fin, Hervé.
Qui prennent ça en précaution, les trafics de leurs enfants.
C'était la majorité. Je dis juste que j'ai vu plusieurs fois des gens de ces familles-là ramener du chichon pour que leurs fils, leurs enfants fassent le trafic en prison parce que c'est plus rémunérateur que dehors. Ils sont protégés. Voilà,
faire les mules ou etc.
C'est la vérité.
Il le dit, Hervé.
Ça existe.
Merci, Hervé, pour ce témoignage. Merci. Et puis, on vous souhaite un bon réveillon.
Toujours à l'OM.
Allez. C'était bien hier.
C'était bien.
C'est 6 buts. Merci Hervé.
Au plaisir Hervé.
Merci. Dans un instant, d'autres témoignages au 32-16 et cette question. On va peut-être faire un premier point sur la consultation. Marseille est-elle devenue une zone de non-droit ? Que dites-vous ? Bon, on va attendre un peu. Allez, à tout de suite sur RMC, RMC Story.
RMC. 9h midi. Les grandes gueules.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
La suite du GG7 et match avec Kevin face à Kauter et Bruno. La question est la suivante. Marseille est-elle devenue une zone de non-droit ? 33 morts à Marseille en 2022, c'est un record des morts dans des règlements de compte sur fond de trafic de stupéfiants. Alors on va regarder ce que vous nous dites. Un point sur le match. Est-ce que vous êtes plutôt dans la team Kevin ou la team Kauter et Bruno ? Suspense. C'est 86% oui.
Marseille
est une zone de non-droit. 86% Kaouter, l'image de ta ville quand même en prend un coup. Non mais c'est
parce qu'on a une partie de nos auditeurs qui sont réels.
86% de ceux qui nous regardent.
Le New York Times et des revues internationales nous font voilà, c'est une ville merveilleuse.
Ouais, New York Times, c'est, alors là pour le coup c'est hors sol. Hein,
non mais attends, excuse-moi. On a les gens qui viennent à Marseille. D'abord, souvent ils y restent, y compris les Parisiens, ce qui nous embête beaucoup d'ailleurs que vous restiez, que vous ne venez pas qu'en vacances.
Heureusement qu'on est là pour faire vivre le commerce.
Tu rigoles ou quoi? Je veux dire, tu te promènes. Vous êtes venu, vous avez bien vu. On est entré à 5h du matin à pied. Didier Giraud, il était fracas.
Didier, il avait la peur de sa vie, même.
N'importe quoi.
Et pourtant, Didier, c'est un gros gaillard.
C'est une ville, je suis désolée. Sors des règlements de compte où vous dites oui. Alors, dans ces cas-là, je peux dire que les routes sont devenues. Donc, dans ces cas-là, les routes sont.
Deuxième degré.
Je te taquine. J'ai été plein de fois à Marseille.
Les routes sont devenues alors des zones. Exactement.
Ça y est, il va habiter Marseille.
Non.
Il ne faut quand même pas exagérer.
Non, mais il est évident que.
On a fait plein d'émissions à Marseille, ça s'est toujours super bien passé.
C'est comme si on disait que les routes étaient devenues des zones de non-droit parce que l'alcool était à volonté et qu'il y avait des gens qui avaient des comportements meurtriers. Je suis désolée, il n'y a pas de territoire de non-droit.
On va écouter maintenant Laetitia. Parce
exactement,
qu'il nous reste
bonjour
plus de
Laetitia.
Temps. Laetitia est membre du collectif des familles endeuillées, des familles victimes de ces règlements de compte, et notamment assassinat. Le petit Ryan mort d'une balle perdue, c'était en août 2021. Laetitia, bonjour.
Oui, bonjour.
Merci d'avoir accepté de prendre la parole. Vous êtes donc la tante de Ryan. Expliquez-nous ce qui lui est arrivé.
Donc, Ryan, le 18 août 2021, était chez ma mère, au Marronnier, dans le 14e à Marseille. Il est parti avec un ami à lui dormir chez un autre ami.
Il a quel âge ?
Il avait 14 ans.
14 ans.
Il est sorti donc pour aller manger un bouillie pour dormir après chez son meilleur ami qui était dans un quartier à côté d'une autre à la SNCF. Ouais. Et en sortant du quartier, une moto est arrivée avec deux personnes dessus, armées d'une Kalachnikov, et ils l'ont rafalé, lui, son ami, et un papa avec un petit qui était à côté.
Donc c'était les autres qui étaient visés.
Oui.
Et pourquoi?
Oui, mais parce qu'ils l'ont pris pour un guetteur.
Ah oui.
Guerre de territoire. Ils l'ont pris pour un guetteur.
Et ils tirent comme ça, ils tuent, quoi, en fait.
Ah oui, ils viennent
pour
pas pour,
motif
ils viennent pas pour faire
assez
peur.
Futile, quoi.
Ils sont venus pour tuer ce genre-là.
Et son copain à côté n'avait rien à voir sur les trafics ou quoi?
La mère Ryan?
Oui.
Par la suite, on a su qu'il était impliqué dans des trucs. Puis après, je peux pas en dire plus parce qu'il y a quand même une enquête qui est en cours. C'est
Et on a retrouvé les tireurs?
Non, ils ont pas été retrouvés, non.
Ah bon?
Ah non. Pourtant, l'affaire a été médiatisée, hein. De par son jeune âge.
Et à votre avis, pourquoi? Parce qu'il y a une loi du silence, personne ne parle, ou parce que finalement on s'est dit, bon ben voilà, c'est un règlement de compte, un énième et.
Alors c'est très compliqué dans les quartiers, c'est très compliqué, il y a quand même une omerta qui se passe quand il y a. Bon, moi j'aime pas ce terme de règlement de compte parce que pour moi c'est forcément lié au stup et en ce qui concerne mon neveu, c'était pas le cas. Ouais. Pour moi c'est un assassinat, pur et simple. Après, dans les quartiers, il faut savoir qu'à l'heure d'aujourd'hui, les gens ont peur. Moi, j'y ai vécu 25 ans. Je suis partie que cette année. Parce que, bon, par rapport à ce qui nous est arrivé, on ne pouvait plus rester là-bas.
Ouais.
Après, voilà, faut comprendre que les familles ont peur. Quand vous arrivez dans un quartier où il y a des checkpoints, où on vous demande où vous allez, on vous met une torche à l'intérieur pour savoir qui vous êtes, quel bâtiment, enfin, c'est quand même compliqué. Moi, j'y vivais, donc ça ne me choquait plus, mais ça peut choquer d'autres personnes. Je vous écoutais tout à l'heure parler, je sais plus qui disait, moi, j'irai pas dans un quartier comme ça. Enfin, oui, je peux l'entendre. Après, faut savoir que ceux qui veulent que ça change et que ça bouge à l'intérieur des quartiers, souvent sont prêts à partir. On les menace, eux ou leurs enfants. Donc c'est vraiment très compliqué. Donc imaginez-vous un assassinat. Les gens ne viendront pas d'eux-mêmes à la police, même s'ils entendent ou s'ils savent des choses, pour dire « je pense que c'est lui » ou « j'ai entendu ».
Parce que dans votre histoire, on imagine que ceux qui ont tiré, ils doivent être dans le coin. Enfin, c'est-à-dire, et toujours. Donc, c'est pas forcément des enquêtes si difficiles que ça à mener, Bruno Pommard.
Oh, si, c'est compliqué. C'est plus compliqué que ça.
C'est compliqué parce que les gens ne parlent pas. Oui, mais voilà, sinon, ils sont pas en fuite. Ils sont là, ils sont à côté.
Après, je pense que c'est compliqué dans tous les sens parce que, voilà, c'est compliqué parce que pour avoir des infos dites des habitants, ben, on n'en aura pas. Après, je pense aussi que, vu que la police judiciaire, enfin, moi, c'est mon ressenti, hein, et on a pu le constater au sein du collectif des familles de victimes par rapport à certaines affaires qui ont été même clôturées pour certaines, il y a un manque de moyens évident, on va pas se leurrer. J'ai déjà contacté, moi, des personnes de la CRIM, on a vu le procureur. il y a un manque quand même de moyens. Et après, il y a beaucoup d'affaires. En sachant que maintenant, c'est même plus que limité à Marseille. Les affaires dans les villes environnantes sont dirigées aussi sur Marseille maintenant. Donc c'est très compliqué aussi pour la police. Je veux dire, sur le moment quand ça arrive, il y a peut-être des choses, je sais pas, qui ne sont peut-être pas faites ou qui ne le sont faites que trop tard.
Les
vidéosurveillances, les cils, les là, les caméras. Ouais, je veux dire, il y a quand même des moyens pour retrouver ceux qui...
C'est pour ça que je m'interroge quand même.
Laetitia, j'entends ce que vous dites, c'est dramatique ce qui est arrivé à votre neveu, évidemment, mais moi, il y a quand même une chose à la base. Il y a des gosses qui tombent dans le stup, qui déscolarisés, qui tombent dans le stup, etc. Il y a plein de gosses dans ces quartiers aussi qui ne dérivent pas, qui ne se font pas abattre, évidemment. Je ne parle pas de votre neveu, parce que lui, c'est vraisemblablement un malentendu, mais son copain était quand même impliqué dans des affaires de stup.
Oui, mais on ne va pas sourire, il faut quand même qu'on reprenne à la base la
problématique, c'est quand même la famille et l'éducation dans tout ça. Parce que c'est bien gentil de dire, comme le dit Kauter, c'est la faute des élus, c'est la faute du ministère, c'est la faute de tout le monde.
Réponse de Laetitia, il nous reste un peu de temps.
Pour moi, c'est pas que cette problématique. Effectivement, pour certaines personnes, il faut prendre le problème à la racine. Oui, il y a des enfants qui sont déscolarisés, il y a des enfants par manque de moyens, dans la pauvreté. Il y a beaucoup de choses qui font qu'ils peuvent tomber dans le réseau, mais après, il n'y a pas que ça. Personnellement, j'ai 41 ans. Moi, je fus une époque, parce que les marronniers, c'est une copropriété, hein, c'est pas chez même. Je veux dire, moi, je payais 900 euros de loyer. Quand j'y ai vécu, quand j'y ai habité, j'avais que 14 ans. Ouais. À l'époque, les marronniers, il y avait des structures sociales, il y avait des aides aux devoirs. Ils sortaient les minots du quartier pour les personnes, les familles qui n'avaient pas les moyens de faire partir leurs gosses en vacances ou dans des activités extrascolaires. Maintenant, lors d'aujourd'hui, je suis désolée, je parle des marronniers parce que c'est le quartier où j'ai vécu. Hein. Il n'y a plus rien. Alors, j'ai même essayé de m'y intéresser parce que pour les 1 an de mon neveu, j'ai voulu que les minots du quartier sortent un peu parce que depuis que Ryan est mort, ils osent plus sortir les petits. Ils ont peur. Ouais. Donc on l'a fait là-bas et à un moment je me suis intéressée, je me suis dit, est-ce qu'il y a un centre social à l'intérieur ? Par qui c'est régi ? Et on m'a expliqué que c'était le centre social de Saint-Gabriel. J'ai dit, mais est-ce que vous trouvez ça normal qu'en X années, je n'ai jamais vu personne de Saint-Gabriel à l'intérieur de ce quartier ? Il y a des locaux vides pourtant. On pourrait faire des choses à l'intérieur.
Bien sûr.
Mais quand vous voyez que même les centres médicaux partent des quartiers, excusez-moi, alors il me semble que ça, c'est le gouvernement, c'est l'État, c'est les élus. C'est pas les familles, ça, qui donnent des subventions à des associations.
Vrai,
alors je dis
raison.
Pas que c'est que ça, attention, mais je dis quand même que quand on occupait nos minots à faire autre chose,
bien sûr.
Ça rentre en compte.
Merci Laetitia d'avoir témoigné.
Merci à vous.
Et on vous souhaite un très bon réveillon. Kevin, un mot sur le témoignage de Laetitia.
Oui, non, c'est la réalité de beaucoup d'habitants, malheureusement, avec le sentiment finalement qu'on est dans une forme d'impuissance publique où ces gens sont livrés à eux-mêmes et que l'État n'existe plus. Et c'est ce qui produit également une crise démocratique. Les gens se disent, pourquoi aller voter ? Puisque de toute manière, si je vais voter ou si je ne vais pas voter, c'est exactement la même chose. Et c'est ça qui est dramatique.
Merci à tous pour vos témoignages au 32-16. Résultat final, je crois que malheureusement il n'y a pas trop de suspense qu'à outer. Il va falloir que tu l'encaisses. Marseille est-elle devenue une zone de non-droit ?
J'invite les gens
toujours
à
86% et Kauter vous invite à Marseille. Kauter, c'est terminé parce que il me reste 5 secondes pour vous souhaiter un très bon réveillon à tous.